Non, on fait le Q&A en anglais ou en français? En français, c'est ça? Oui? Ok, en français, c'est plus simple. Merci beaucoup pour cette présentation très approfondie. Tu as parlé à un moment, j'ai noté, au tout début en fait, tu as parlé d'une image authentique. Et nous, effectivement, quand on a commencé cette recherche, on est arrivé souvent à. On a été confronté effectivement à cette assumption que nous avions nous aussi, que les étudiants ont naturellement été plus ou moins endoctrinés et laver le cerveau et tout ça et un peu systématisé comme ça et à chaque fois c'est revenu qu'effectivement c'était pas ça et que par contre il y a eu une vraie et toutes les générations confondues effectivement qui ont traversé l'école, il y a eu un vrai souci de la recherche de la vérité et du vrai. Osama le disait avant-hier dans ses propres mots en parlant de beauté et justice d'une certaine manière. Donc, je ne sais pas si tu veux revenir un peu. Moi, ça m'intéresserait d'avoir un peu plus d'informations là-dessus.
Sur cette question d'authenticité.
Oui. Sachant que je le dis parce que le concept d'authenticité, effectivement, est un concept extrêmement difficile,
Problématique.
problématique par rapport à l'Afrique, parce que c'est un long débat, par exemple, en art contemporain africain, qui très souvent a été regardé ou continue même à être regardé à travers la lunette de la soi-disant authenticité et ou la non-authenticité. De la visualité, de la pratique de ça, et comment au cinéma, par contre, c'est un terme un peu moins problématique, et il y a tout un langage esthétique aussi autour de ça.
Ah, en fait, le concept d'authenticité au cinéma, il est très travaillé actuellement, surtout à travers l'histoire du cinéma ethnographique. Dès les années 20, le cinéma ethnographique est très à la mode. Nanouk l'Esquimau a une répercussion immense en France comme en Union soviétique. Et partout, il y a cette idée de il faut qu'on montre les différents peuples dans leur authenticité. En fait, Nanouk l'Esquimau, c'est une mise en scène. Et même dans le travail ethnographique et dans la manière dont on filme les différents peuples, il y a une mise en scène. En Union soviétique, par exemple, dans de nombreux films ethnographiques, plusieurs personnalités étaient payées pour jouer leur propre vie dans les films. Donc la question de l'authenticité, elle est très problématique. On a vu aussi hier, je ne sais plus qui disait, que la distinction entre cinéma documentaire et cinéma de fiction est problématique. À partir du moment où on cadre une image, il y a tout ce qui est en dehors de l'image, et c'est un choix. C'est déjà, voilà, la question de l'authenticité est vraiment complexe. Et effectivement, tout ce discours sur l'authenticité a nourri de nombreux intellectuels africains dans les années 50, Paulin Vira entre autres, et tous les intellectuels de présence africaine. C'était vraiment un sujet qui revenait régulièrement. Et de nombreux intellectuels étaient d'ailleurs en désaccord profondément.
Oui, effectivement, parce que il y a cette idée d'authenticité est quand même nourrie aussi par le regard, disons, le gentiment externe. C'est en se disant, mais quand même avec des idées figées de l'Afrique, quoi.
Tout à
Donc,
fait.
et dès qu'on sort de ces idées figées ou de ces images figées, on n'est plus authentique.
Oui, Jean Rouch, non, Sem Ben Ousmane, pardon, a eu des mots très très durs pour Jean Rouch en disant qu'il étudiait les Africains comme des insectes. Et c'est complexe. D'autres ont critiqué Sem Ben pour ses mots très durs en disant, enfin, qui regarde, pour montrer comment est-ce qu'effectivement l'authenticité est seulement l'apanage de celui qui vient de cette culture. C'est une question très complexe.
Ce qui m'a beaucoup intéressée aussi, c'est cette immensité de l'Union soviétique. Et comment, à travers le cinéma, l'administration culturelle et territoriale et politique et intellectuelle du pays a essayé d'embrasser ça d'une certaine manière. Et l'envoi des professionnels de cinéma dans les régions, les 116 communautés ethniques dont tu parlais.
160,
encore plus. Les 160 communautés ethniques dont tu parlais. Ça me rappelle aussi, parce que dans notre projet, Racha et moi, on a vraiment, et il nous manque vraiment beaucoup, Alexander Sacha Markov, parce que Sacha a fait effectivement le travail inverse, où on envoyait aussi des professionnels de cinéma en Afrique, dans ce vaste continent. Donc, quelque part, j'ai comme vu une sorte d'analogie entre l'immensité de l'Afrique et l'immensité de l'Union soviétique et le désir de le capturer à travers l'image.
C'est ce que j'ai voulu montrer dans mon préambule, justement, en montrant qu'il y a un parallèle entre l'Union soviétique, effectivement, cette diversité ethnique et cette volonté de représenter tout le monde dans la langue. On n'a pas parlé de la langue, on en a parlé hier avec la présentation d'Elena, mais cette question, effectivement, de faire des films en langue nationale était très importante en Union soviétique, où dès les années 20, on sous-titrait les films en tatar, pour dire il faut que chacun puisse avoir son film dans sa langue, alors même que l'analphabétisme était encore très développé. Et en Afrique, dans les années 60, Sem Ben dit on veut des films en Wolof, on veut des films en Bambara, on veut les films pas en français. Et c'est une revendication qui n'est pas nouvelle.
Je ne veux pas monopoliser la parole et en plus vous tourner le dos de manière aussi impolie. J'aimerais bien ouvrir le floor, comme on dit. Oui, Osama.
English?
Yeah.
I would like maybe to correct some information. You said that studying in Geek, you have to make a film 16 millimeters, yeah? Then stage in a studio, then diploma. Mm-hmm. Actually, it was 4 films and not 2 films. And it's a big difference. You should make 16 millimeters, but we have to mention that 16 millimeters, even studying as a director, you have to shoot it yourself without a cameraman, and it tells a lot. Then you have Uchebnaya Rabota, second year. It's a fiction, if you are studying fiction, and it should be in black and white. And it tells a lot about the philosophy of school, black and white. Then you have Kursavaya Rabota, third film. You are free, you have to shoot in colors first time, and you have to adapt from literature. You are free to adapt. You can take poems, you can take from theater, theatrical plays, or Gorky, or the other. You can make Gorky, a musical Gorky. It was in my course. Musical Gorky with, I don't know how to say, Nadny. Come on, how to translate Nadny. And there was a big fight with the administrative staff that, do you have right to make Gorky musical? It was a real fight, and my master Talankin, again, he was defending this, and the student could make it. Then you have the diploma. The diploma, you are free, totally free. Choose what you want. You can You can work with Smoktunovsky with the greatest actors if they agree, and they Fgig would pay for anybody if they agree to play with you. So you see that it's a logic, it's a philosophy, and it's not two films. Thank you.
Okay, thank you for this more information.
Any more, Valérie? There is a lady here at the front, or I see somebody in the back.
Oui, d'abord, merci beaucoup, Gabriel, parce que j'ai trouvé ta présentation extrêmement claire et intéressante. Je voulais savoir quelle était ton hypothèse interprétative du décalage qu'on semble observer entre une vraie volonté politique affichée de valorisation de la diversité culturelle, civilisationnelle, de reconnaissance de l'autre comme porteur d'une civilisation, d'un héritage culturel, et le rejet de la part des étudiants russes locaux qui pourtant bénéficiaient de cette formation commune avec ces étudiants venus du continent africain et du Moyen-Orient. Comment ça se fait que malgré tout ça, malgré tous ces efforts, malgré tout cet argent et cette politique, il y ait eu de la part des étudiants du FGIC étranger ce sentiment d'un tel rejet et d'un tel mépris de la part de leur père?
Alors, c'est une question complexe. D'abord, il y a la contradiction entre une volonté politique venue du haut et puis une réalité sociale. Après, c'est toujours compliqué de faire des généralités aussi. Il y a certains qui ont de très très bons souvenirs, qui sont mariés à des Russes, qui ont subi le racisme comme ils auraient pu le subir au même moment en France. Enfin, on parle à l'Union soviétique, mais la question du racisme, elle se pose ailleurs. Et malgré des politiques de diversité ailleurs, on le voit aujourd'hui dans de nombreux pays. Donc voilà, c'est la question de la contradiction vraiment entre une volonté politique qui est parfois authentique, je dirais, qui est honnête ou non d'ailleurs, parce qu'il y a des velléités internationalistes plus importantes et idéologiques aussi. La question de l'amitié des peuples, elle s'est posée dès les années 20 au sein même de l'Union soviétique, et le racisme, il n'est pas que envers les Africains, il est envers les occasion. Donc c'est une question plus complexe et plus large à prendre avec précaution.
Voilà. Oui, aussi je pense effectivement que les c'est la question ne m'est pas posée, mais j'ajoute mon petit grain de sel, c'est que il est vraiment très difficile d'appliquer une idéologie comme ça ou un programme social politique comme ça dans ce cas précis de cette amitié socialiste et internationale et complètement oublier effectivement la réalité permanente qui a été malheureusement établie depuis tellement de siècles que jusqu'à aujourd'hui on n'arrive pas à s'en défaire, quoi. Effectivement, ce rejet de l'autre et cette crainte de l'autre, malgré effectivement cette proximité quotidienne, professionnelle, intellectuelle qu'on peut avoir.
Ok, là-bas ? J'ai pas vu.
Yes. Thank you very much for your talk. I wonder what hopes the Soviet state or FGIC had for these students once they graduated. Did they push them to present their films at particular film festivals? Did they monitor their progress? Things like that.
Yes. No, it's true that... sorry, in French. Oui. C'est vrai, l'Union soviétique a développé donc une assistance cinématographique à la fois en termes de matériel, de formation, et elle a aussi proposé différentes plateformes, différentes vitrines pour la diffusion des films de ses étudiants. Donc ces étudiants pouvaient diffuser leurs films au festival du film d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine dont tu as parlé hier à Tashkent. Et il y avait comme ça des délégations qui partaient à Tashkent et plusieurs étudiants ont montré leurs films, parfois pour la seule fois d'ailleurs, dans un public à Tashkent.
Mais si je peux y ajouter quelque chose, les conversations qu'on a quand même eues, Racha et moi, avec différents anciens étudiants, cinéastes, il y a une vraie, disons-le, amertume qui en ressort parce que pour la plupart, ils se sont sentis effectivement juste après les études complètement délaissés et pas du tout suivis ni même réinvités en Union soviétique pour quoi que ce soit. Donc c'est une vraie réalité aussi et ça quelque part ça rejoint la situation un peu sociale qui dépasse la réalité politique ou l'enjeu politique, quoi. Donc, c'est pas si...
Je dirais, hélas, c'était dans le contrat. Ouais. Dès le départ. Tous les étudiants...
Qu'est-ce que tu veux dire, était dans le
contrat ? C'était dans le contrat que les étudiants, une fois leur diplôme fini, repartaient chez eux.
Oui, ça, c'est clair. Non, on ne parle pas de rester ou de ne pas rester.
Oui, mais c'était
ceux qui ont eu des carrières, il y en a quand même nombreux qui ont eu de fulgurantes et très belles carrières. Oui. Mais ces carrières n'ont jamais intéressé la Russie par la suite.
Oui, alors certains ont été invités. Sem Ben Ousmane était invité à presque toutes les sessions du festival de Moscou. Mm-hmm. Il y a certaines figures intellectuelles, mais parce que militantes aussi, hein, qui ont été régulièrement invitées. Mais c'est vrai après qu'il n'y a pas eu une politique de promotion du suivi de carrière de ces cinéastes. Même si je serais un peu plus mesurée, parce que quand même certains ont été invités à Tashkent régulièrement, et ça a été un lieu important pour eux. Je ne serais pas aussi radicale.
Non, c'est pas une question de radicalité, c'est juste ajouter ça aussi parce que c'est les différentes couches du récit et il faut ajouter toutes les couches du large récit qu'on est en train de dérouler ici. Alors, nous avons encore un peu de temps, peut-être encore une ou deux personnes. Il y a la dame là et le monsieur derrière. Le monsieur derrière, on me dit, ça fait beaucoup plus longtemps.
I was curious about the process of entering the schools because you said that the l'année préparatoire that they only decided to what they want to do in that year. So how did the students were selected from the countries that they came from to enter? Like what was the process to get the scholarship from the beginning?
Alors, au tout début, mais ça ne concerne pas le cinéma, en fait, l'obtention des bourses était faite soit, effectivement, parce qu'il y avait des accords entre l'Union soviétique et le pays sur le nombre de bourses à accorder à un nombre d'étudiants par année. Donc ça, c'était la première solution. Deuxième solution, c'était effectivement des accords entre l'Union soviétique et des partis politiques, soit d'opposition dans un pays. Ou troisième possibilité encore, c'était quelques bourses qui restaient à titre individuel. Mais alors, dans ce cas-là, c'était pas pour le geek, mais c'était plutôt pour faire des stages au sein d'un studio. Dans les pays d'origine, souvent c'était une proximité avec le parti au pouvoir ou bien les partis d'opposition. Il y avait quand même soit on connaissait quelqu'un dans le parti sans être forcément très militant ou engagé, c'était une connexion avec des personnalités politiques du pays.
Mais il y a aussi effectivement les pays dans lesquels qui n'étaient pas forcément d'obédience socialiste mais qui avaient quand même des rapports de coopération et d'éducation avec l'Union soviétique qui ont dans leur pays, qui ont dans les pays leur propre système de sélection qui très souvent est au mérite par rapport au bac et aussi par rapport à la demande des jeunes bacheliers, quoi. Donc en tout cas en Afrique francophone.
Sauf qu'on n'avait pas besoin d'être bachelier pour obtenir ces bourses.
Ah bon?
Non.
C'est sûr?
Sûr.
Et il y avait aussi les ciné-clubs. Là où il y avait les ciné-clubs, par exemple, Abderrahmane, il m'a dit que lui, c'est à travers un ciné-club. Voilà, en fait, un centre culturel qu'il a réussi à avoir.
C'est le centre culturel russe, en fait.
Voilà, le centre culturel russe à Nouakchott.
Alors après, effectivement, après leur première année où ils apprenaient le russe, ils devaient passer un examen d'entrée au GIC. Ça n'était pas la porte ouverte à tous au GIC.
On prend une dernière question et c'est ça. Il y avait quelqu'un derrière, sinon je la donne devant. Micro.
Je voulais juste rajouter dans le cas de Guinée, par exemple, le premier fourni de cinéastes, la condition, en fait, c'était ceux qui avaient leur bac. Il n'y avait pas autant de personnes qui avaient leur bac. Mm-hmm. Donc, le départ pour la bourse côté guinéen, il fallait qu'il pas seulement pour le cinéma, mm-hmm. mais pour partir en bourse. Voilà, donc, il n'y avait pas autant de personnes qui avaient oui. leur bac à l'époque. Voilà.
Effectivement, ça dépendait. En fait, chaque pays avait sa politique de sélection. Donc, effectivement, pour certains pays, c'était avoir le bac. Et certains avaient étudié déjà à Paris. Ça va être le cas de Costa Diane, qui a étudié le journalisme à Paris, en fait, avant de venir à Moscou. Et pour d'autres pays, le Maroc, on en a parlé avec Mohamed, le bac n'était pas une condition pour pouvoir partir à Moscou. Ça dépendait des pays.
Je pense que ça évolue aussi des années 60 aux années 80. Oui. Quoi. Donc, je pense que les conditions ont beaucoup changé. En tout cas, merci infiniment, ben,
merci
Gabriel.
À toi.
C'était très instructif. On va faire une petite pause. Non ? Racha a dit que vous n'avez pas droit à la pause. Vous voyez, je vous ai bien dit. C'est moi la gentille.